Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins visent la mention très bien, au moins tous les jours, en compagnie de Marianne Chassor, Alexiane Braun, Jules Salomon et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture des textes cette semaine, Sophie Bourrel, à la réalisation de 20 sur 20 à répétition, Nydia Portis-Guérin, à la prise de son, Benjamin Chauvin et Gilles Gallinaro, et au mixage, Pierre Mine. « 10h50, c'est l'heure à laquelle il vous faudra refermer stylo et copie et céder la place à François Noodleman pour son journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Jacques-Emmanuel Bernard, qui viendra vous parler de la sociabilité épistolaire chez Cicéron, un livre paru chez Honoré Champion. » Suite de notre semaine bac philo, 6 jours avant l'épreuve fatidique. Une semaine destinée à réviser autrement que devant leur fiche pour ceux qui passent le bac et à stimuler ceux qui l'ont déjà en leur rappelant que la philosophie est aussi affaire de méthodes, d'exemples et d'arguments. Ces émissions sont organisées en partenariat avec Philosophie Magazine, qui propose ce mois-ci un hors-série indispensable aux révisions, ainsi qu'avec la librairie Kléber de Strasbourg, qui nous a ouvert ses portes le mois dernier, pour nous permettre de rencontrer 4 professeurs de philosophie qui ont bien voulu se prêter au jeu de la dissertation ou de l'explication de texte devant leurs élèves, ainsi que d'autres lycéens et étudiants venus nombreux pour l'occasion. Alors après l'explication d'une pensée de Pascal, hier, par le professeur Guillaume Morano, avant demain, Yann Martin du lycée Kléber qui commentera pour vous un texte de Jean-Jacques Rousseau, tiré de son second discours, qui s'interroge sur l'origine du langage, et jeudi, Pierre Dulot du lycée international des Pontonniers, qui se demandera ce qu'est un homme seul, aujourd'hui, pour cette deuxième épreuve, c'est Marc Leny du lycée Kléber de Strasbourg qui a tiré le sujet suivant, « Faut-il aimer son travail ?»
On m'a gentiment expliqué qu'il fallait oublier la réponse qui me viendrait spontanément. Car c'est pas un bon moyen de construire un raisonnement, enfin de élaborer un plan pour une dissertation de philosophie. Bah,
je vois que vous appliquez à merveille ce conseil, puisque vous venez de faire la réponse que le prof vous a dit visiblement.
Bah, c'est mieux de l'aimer, c'est clair, mais on peut, ouais. Enfin, il me faudrait 4 heures pour y répondre en jour du bac, je vais pas.
Faut-il aimer son travail? J'aurais mis comme argument que plus on aime son travail, mieux on va le faire. Enfin, faut pas aimer son travail, quel que soit le travail, il faut aussi être critique par rapport au travail qu'on nous donne, parce que sinon, on va finir par faire n'importe quoi. Donc,
Je parle par expérience, le travail, c'est d'abord au sens étymologique une torture, une souffrance. Alors, est-ce qu'on peut aimer la souffrance? Et puis, d'autre part, je dirais que le travail, c'est une denrée rare, de plus en plus rare, et qu'avant de l'aimer, il faut l'avoir.
Sur l'équilibre de la vie, je choisirai mon travail. Je choisirai mon travail parce que c'est vital. C'est vital d'avoir un travail qui nous plaise. Là, j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît. Et puis de nourrir la famille et d'assurer l'avenir de nos enfants.
C'est vrai que quand on n'a pas de travail, vous avez le sentiment que vous ne faites rien, que vous êtes nul, que la vie n'a pas d'intérêt.
Avec le travail, on est toujours en lien avec les autres. Donc si le travail manque, si l'activité manque, il n'y a plus ce lien avec les autres. Alors ça, c'est pas anecdotique, c'est fondamental. On est quand même des êtres sociaux et être en manque de lien avec les autres, c'est une formidable amputation.
Ne pas avoir de travail, avoir un travail mal payé, ne pas être considéré au travail, souffrir au travail. Si le malheur est associé au travail, c'est parce que le bonheur est également associé au travail. Le travail est une servitude volontaire parce que nous ne sommes pas des esclaves, parce que nous ne sommes pas des serfs. Nous allons volontairement au travail tous les jours. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter.
Il y a toute une présentation de la société du travail comme un privilège. Donc forcément, quand vous en avez un, vous allez au boulot, vous dites « Ah, j'ai de la chance ». Donc ça a tout un côté un petit peu absurde, parce qu'il faut forcément vendre la chose pour la rendre attrayante.
L'origine du mot travail, le tripalium, c'est justement un instrument de torture. Donc on voit bien que dès le début, cette notion de travail est une notion terriblement mêlée de souffrance, terriblement mêlée de quelque chose de dur. Hein.
C'est en même temps la souffrance, le plaisir, c'est un amalgame de tout ça. C'est un amalgame de colère aussi, par rapport à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le travail.
Josie ?
Quoi ?
C'est comment travailler? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas comment...
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot. tableaux font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
Bonjour Marc Leny.
Bonjour.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins de la Connaissance et bienvenue à la librairie Kléber de Strasbourg où nous enregistrons cette émission en compagnie de votre classe, notamment de la classe de terminale S qui vient du lycée Kléber. Bonjour à vous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je m'adresse aussi au public autour de vous. Faut-il aimer son travail? C'est le sujet que vous aviez proposé de traiter aujourd'hui. On vient d'entendre les témoignages, alors non seulement des gens de la salle, mais aussi d'un documentaire. C'est un extrait d'un documentaire intitulé « J'ai très mal au travail », fait par Jean-Michel Carré en 2006. Et ce qui ressort de ces nombreux témoignages, c'est le terme d'amalgame. Derrière le terme de travail, on y met beaucoup de choses, soit de la souffrance, parfois, dans le meilleur des cas, du plaisir ou du bonheur. Mais en tout cas, il est difficile de définir ce qu'est le travail, alors qu'il est plus facile de définir comment on se positionne vis-à-vis de son travail. Et le sujet que vous avez choisi pose cette question-là. Faut-il l'aimer? Certes, mais qu'est-ce que le travail d'abord? Est-ce que c'est une bonne façon de commencer l'analyse du sujet?
Oui, alors on entend bien, paradoxalement, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend bien l'ambivalence du travail. Vous parlez d'amalgame, ça me paraît tout à fait judicieux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y comprend plus rien. C'est à la fois une source de bonheur et en même temps une source de malheur. Et c'est tout l'intérêt de ce sujet qui paraît paradoxal, puisqu'il associe la notion d'amour et la notion de travail, et dont l'horizon est évidemment de savoir comment peut-on définir le travail. Donc ça me semble un bon point de départ que, par exemple dans une introduction, d'insister sur le caractère ambivalent du travail qui peut se révéler être source de souffrance, une contrainte pénible et en même temps une source d'épanouissement ou de reconnaissance. Alors on a quelque chose qui s'oppose, peut-être pour l'instant de manière un peu statique, mais qui en tous les cas fait problème. Donc la question, faut-il aimer son travail, c'est la question de savoir qu'est-ce que le travail pour qu'il faille l'aimer. Alors à la fois, finalement, il y aurait deux lignes ou deux pistes. Premièrement, est-ce qu'il ne faudrait pas que le travail soit en lui-même aimable pour que je puisse l'aimer? Ou, et c'est ça peut-être qui fait problème, donc on aurait là du coup l'élément problématique pour un point de départ, pourquoi faudrait-il que l'amour du travail soit l'objet d'une obligation?
Là, vous vous intéressez au terme du faux. Faut-il, c'est-à-dire quelle sorte d'obligation ou de contrainte y a-t-il derrière cette question?
Oui, c'est ça. Là, on s'intéresse au premier mot du sujet, puisqu'il faut interroger tous les éléments du sujet. Bon, j'insiste sur une chose, d'un strict point de vue méthodologique, si on fait une parenthèse, j'insiste auprès de mes élèves pour leur expliquer que la philosophie est une matière scolaire normale. Et j'entends par là que l'exercice de la dissertation correspond à des exigences qui sont à la fois intelligibles et donc on peut parfaitement réussir. Il n'y a pas de mystère à réussir une dissertation de philosophie.
Normal, ça veut dire sans mystère ?
Normal, ça veut dire sans mystère. Ça veut dire que comme toutes les autres matières scolaires, il y a un programme, des finalités pédagogiques et qu'on peut, en s'y soumettant, y réussir. Donc, dans la dissertation « Faut-il aimer son travail ?», l'horizon que doit avoir en tête le candidat, c'est que de toute manière, il est question d'essayer de définir la notion de travail à travers une question précise, bien sûr. D'où la possibilité de réussir sans souci.
Alors, je note quand même un présupposé au sein de cet intitulé qui est de vous, hein, Marc Leny. Faut-il aimer son travail? Si la question se pose, c'est qu'on part du principe que le travail ne serait pas une chose aimable, serait d'abord le lieu d'une souffrance. Or, c'est un discours qu'on entend beaucoup et qui est réel, mais il y a aussi une attitude très positive vis-à-vis du travail. Il y a certaines personnes qui, par le travail, au contraire, non seulement prennent une identité, il y a un processus d'individuation et d'identification à son travail, et surtout une dimension très valorisante du travail. Est-ce qu'un élève pourrait commencer avec cette idée-là, de l'idée d'une conception positive du travail?
Alors je répondrai, en tous les cas, c'est dans le plan tel que je le proposerai, je proposerai de partir plutôt de l'idée de souffrance. Parce que ça permet d'enraciner la réflexion sur la première conception du travail. D'un point de vue historique, le travail a d'abord été considéré comme une servitude naturelle. Et il est très intéressant d'ailleurs de comprendre et de remarquer, on y viendra je pense dans l'émission, le contraste qu'il y a entre la conception antique et classique du travail et la conception absolument révolutionnaire que proposent au contraire les modernes. Alors pour commencer, Imaginons une première partie. Faut-il aimer son travail? Dans la mesure où on répondrait comme les classiques que le travail est une activité pénible, évidemment, on va être amené à proposer comme première réponse que le travail n'est pas aimable en soi. Alors là, il faut détailler cette conception du travail comme servitude naturelle.
Alors avant de détailler cette conception, vous avez sauté une étape. Alors vous avez raison, nous n'avons que 50 minutes et non pas 4 heures comme le jour du bac. Mais comment définiriez-vous la problématique du sujet? Et je vous pose la question à dessein, puisque le sujet est une question. Or, c'est ce qu'on dit aux élèves en terminale, il faut avant de proposer un plan, arriver à le problématiser. Quels sont les éléments qui seraient à votre service ici pour proposer une problématique de ce sujet?
Alors, pour démystifier cette notion de problématique qui permet souvent au correcteur de donner des mauvaises notes à longueur d'année aux élèves, et notamment aujourd'hui baccalauréat, une problématique, ça suppose simplement de comme le disait Eva, de ne pas répondre à la question, donc de gommer le point d'interrogation pour s'empêcher de répondre spontanément et d'interroger la question elle-même. Voilà. Et donc on trouvera la problématique si on se pose la question, si en face d'une question, on se pose une deuxième question qui est pourquoi me pose-t-on cette question? Alors, pourquoi pose-t-on la question « faut-il aimer son travail ?» Pour pouvoir y répondre, il faut faire un détour et s'interroger sur ce que c'est que le travail, quelle est la nature du travail. On a là tous les éléments problématiques. Donc, si on voulait un tout petit peu formaliser, on pourrait dire « quel sens leur a-t-il d'avoir à aimer ou d'être obligé d'aimer le travail ?» Et d'ailleurs, on peut aussi se demander, c'est un autre élément problématique, si l'amour, en général, peut être l'objet d'une obligation. Autrement dit, est-ce que ça a du sens d'obliger quelqu'un à aimer son travail ?
Tous les jugements anciens sur les activités humaines, y compris ceux d'Hésiode, par exemple, qui est censé louer le travail, reposent sur la conviction que le travail corporel rendu nécessaire par les besoins du corps est servile. Aussi, les occupations qui ne consistaient pas à travailler dur, auxquelles on se livrait cependant pour gagner sa vie et non pour le plaisir, étaient assimilées au statut du travail. Et c'est ce qui explique les variations des valeurs et du classement qui leur furent attribuées à différentes époques et en divers endroits. Dire que le travail et l'artisanat étaient méprisés dans l'Antiquité parce qu'ils étaient réservés aux esclaves, c'est un préjugé des historiens modernes. Les anciens faisaient le raisonnement inverse. Ils jugeaient qu'il fallait avoir des esclaves à cause de la nature servile de toutes les occupations qui pourvoyaient aux besoins de la vie. C'est même par ces motifs que l'on défendait et justifiait l'institution de l'esclavage. Travailler, c'était l'asservissement à la nécessité. Et cet asservissement était inhérent aux conditions de la vie humaine. Les hommes étant soumis aux nécessités de la vie, ne pouvaient se libérer qu'en dominant ceux qu'ils soumettaient de force à la nécessité. La dégradation de l'esclave était un coup du sort, un sort pire que la mort, car il provoquait une métamorphose qui changeait l'homme en un être proche des animaux domestiques.
Marc Leny, vous aviez proposé tout à l'heure comme un début possible le fait de présenter l'évolution de la conception du travail, de rappeler que l'Antiquité ne pouvait se faire une conception positive du travail. C'est en réalité une idée assez moderne que de proposer, d'avoir une conception du travail qui soit gratifiante. Ici, c'est un texte d'Anna Arendt que l'on vient d'entendre, issu de La condition de l'homme moderne, qui rappelle cette distinction-là en prenant comme exemple, il me semble que c'est un exemple dont on peut peut-être se resservir dans la dissertation puisqu'il est très parlant, qui est celui de l'esclavage, que les anciens n'avaient pas recours à l'esclavage parce qu'ils avaient une certaine... parce que comme vous avez, plutôt que l'esclavage n'était pas justifié par une certaine conception de l'homme, mais c'est la conception du travail lui-même tellement dévalorisante qui a pu justifier, au moins pragmatiquement, l'esclavage.
Oui, alors si on rentre dans cette première partie et donc dans cette conception classique ou antique du travail par la question de l'esclavage, on peut effectivement s'appuyer sur le paradoxe que Hannah Arendt souligne dans ce texte. Elle oppose la conception antique à la conception moderne de l'esclavage. Pour les modernes, ce qui est dévalorisé dans le cadre d'un commerce ou d'une traite négrière ou d'un esclavage quel qu'il soit, ce qui est dévalorisé, c'est l'esclave lui-même, c'est la personne humaine qui travaille et non pas le travail qu'il accomplit. Finalement, pour les modernes, l'esclavage est un moyen de s'enrichir. À l'inverse, et là, on en vient là à la conception antique du travail, les anciens ne méprisaient pas les esclaves, et d'ailleurs ils pouvaient les affranchir. Aristote a affranchi un esclave qu'il avait, mais ils dévalorisaient l'activité du travail. Donc le travail, pour les anciens, était une servitude naturelle. Travailler, c'était, comme elle le dit ici, l'asservissement à la nécessité. Alors, Juste une chose, Hannah Arendt est une auteure éminemment contemporaine, mais elle reprend ici la conception ancienne du travail. On verra que ça a un intérêt par rapport à la suite de la réflexion. Et elle insiste sur le fait que les anciens avaient perçu une partie de l'essence du travail. Et cette essence-là, c'est le fait que, parce que nous avons des besoins naturels à satisfaire, se nourrir par exemple, nous sommes absolument contraints, nous sommes biologiquement contraints, nous sommes de manière vitale contraints à des activités qui nous permettent de satisfaire ces besoins. L'exemple classique du travail, c'est l'agriculteur qui produit évidemment ce qu'il va ensuite consommer pour pouvoir demeurer en vie. Les anciens n'avaient pas de mots équivalents au nôtre, puisque pour nous, le terme de travail désigne une multitude d'activités très différentes. Pour les anciens, le travail désignait tout simplement les activités auxquelles les hommes étaient contraints, à moins d'avoir des esclaves, à moins par la domination et la violence de pouvoir s'en affranchir en faisant travailler les autres. Mais ils appelaient travail l'activité dont nous sommes absolument contraints pour pouvoir vivre. Et toutes les activités contraintes par la vie recevaient le nom de travail. De sorte que, et elle insiste aussi dans ce chapitre de la condition de l'homme moderne, la consommation, qui est aussi contrainte, puisque je dois consommer pour vivre, la consommation, comme la production des biens, font partie du travail. Le repos, qui permet de récupérer les forces dépensées au travail, est tout aussi nécessaire que la dépense de ces forces. Le repos est donc aussi du travail. Le trajet pour aller à son travail est tout aussi nécessaire. Toutes ces activités-là, en tant qu'elles sont contraintes, on les appelait le travail, enfin, relevées de ce que les anciens appelaient le travail. L'étymologie le dit. L'étymologie, elle dit deux choses. Elle dit d'une part que le travail relève de la souffrance. Alors, en grec, c'est ponos. On connaît l'étymologie latine « tripaliare » qui signifie « tourmenter ». En ancien français, « travailler », ça signifie tout simplement « souffrir ». Mais les anciens, c'est-à-dire les Grecs, les Romains, etc., n'appelaient pas seulement « travail » une activité douloureuse, ils appelaient essentiellement le travail une activité contrainte. Et en fait, finalement, la souffrance du travail s'enracine dans son caractère contraint.
Donc le philosophe qui écrit des livres de philosophie ne travaille pas, puisque ce n'est pas nécessaire à sa survie, que ce n'est pas fait sous l'effet d'une contrainte.
C'est effectivement, du coup, la question de l'oisiveté que vous posez et qui s'enchaîne parfaitement avec cette conception du travail. C'est-à-dire que ne pas travailler pour un Grec, par exemple, ça n'est pas rien faire. Ça n'est pas être paresseux, ça n'est pas le farniente. Ne pas travailler, c'est avoir le temps d'accomplir des activités non contraintes, c'est-à-dire des activités libres.
Voilà, donc là, on a la distinction entre le travail et l'activité libre, ce qui présuppose déjà donc qu'au travail soit inhérent la notion même de contrainte. Donc ça, si vous posez ça dans la première partie, comment à partir de là formulez-vous la question ou reformulez-vous la question du sujet si le travail est une contrainte, si le travail nous est imposé, si le travail est de souffrance, à la question « faut-il aimer son travail », a-t-on une réponse ou est-ce que la question se pose encore dès lors que le travail est le lieu d'une souffrance ?
Il me semble que si on a intégré cette conception antique du travail, et qui, à mon avis, perdure, c'est-à-dire qu'elle conserve, même si elle date d'Aristote ou de quelque autre auteur, elle conserve une pertinence contemporaine, c'est-à-dire que nous sommes tous, même si les médiations sont beaucoup plus complexes, les médiations sociales sont complexes, mais nous sommes tous contraints à devoir travailler pour pouvoir posséder un salaire et acheter des biens qui nous permettent de vivre. Donc la contrainte fondamentale, au-delà des médiations, demeure la même. Donc si on intègre cette définition antique du travail, qui, encore une fois, me semble être tout à fait pertinente, et c'est le propos d'Arendt, j'y reviendrai peut-être, il me semble que la réponse, on peut du coup construire une première réponse, à la fin d'une première partie, pour faire une parenthèse méthodologique, on peut construire une première réponse qui est celle-ci, le travail n'est en soi pas aimable. Donc il est absolument, enfin pour un Grec, il est absolument idiot ou bizarre ou étonnant de devoir aimer son travail et encore plus d'en faire une obligation. Le travail est une pure contrainte et cela n'a rien à voir avec l'obligation ou l'amour que l'on pourra avoir pour cette activité. On peut aimer par contre des activités libres. Voilà, la poésie, la pensée, la science, d'autres choses, la politique a aussi un mode de vie. Mais ça, ce sont des activités libres que l'on accomplit une fois que l'on a achevé le travail contraint.
Donc au terme de cette première partie, on a une distinction assez claire au sein du terme travail entre le travail subi, lieu de souffrance, et le travail choisi, lieu au contraire là d'un espace de liberté qui peut donner les conditions d'un travail aimé et donc qui rendra heureux.
Oui, donc on passerait à un second moment où on essaierait de prendre le contre-pied de cette première conception. Et ce contre-pied, on l'a avec la conception moderne du travail qui, par rapport à cette conception antique, est révolutionnaire. C'est-à-dire que à partir de d'auteurs comme Locke ou d'auteurs comme des économistes classiques comme Ricardo, Smith, on a une conception du travail qui est tout à fait différente et qui est entièrement positive. Pour les modernes, le travail est une activité d'abord qui est productrice, créatrice. Donc par le travail, on peut produire des choses qui n'existent pas naturellement. Pour les économistes, le travail est source de valeur. De valeur économique, de valeur sociale, la production d'un bien, d'un service. Donc on a une conception qui est positive et qui va effectivement, qui peut se renverser. Pour le dire de manière très concrète, il y a des métiers passionnants. Il y a des métiers passionnants parce qu'ils sont créatifs, il y a des métiers passionnants parce qu'ils permettent de, voilà, de produire de la valeur, d'enrichir son existence ou celle des autres, d'enrichir la communauté, des travaux qui sont socialement utiles. On irait donc vers une conception positive.
Et là, ce que vous proposez comme une évolution historique, en partant des anciens pour arriver au moderne, pourrait se faire aussi autour d'une articulation conceptuelle, d'un travail dépouillé de toute forme de valeur et donc lieu de souffrance, à un travail investi d'une forme de dignité, d'intérêt pour soi, qui ferait du travail le lieu d'une émancipation personnelle. Parce que sinon, le passage de la première à la seconde partie est purement historique. Est-ce qu'on peut dire, là, on a parlé des anciens, maintenant, venons-en au moderne, il faut bien une articulation conceptuelle.
Oui, l'articulation conceptuelle, bon, la présentation peut être historique, mais il faut effectivement qu'elle soit conceptuelle. Elle sera conceptuelle quand on remarquera, en guise de transition, que le caractère contraint du travail n'épuise pas la notion de travail. Voilà, et que le concept de travail doit être analysé de manière un peu plus approfondie. Effectivement, c'est une activité humaine, une activité productrice, une activité qui suppose des facultés que seuls les hommes possèdent, comme la conscience, la réflexion. Et donc, du coup, on a l'idée que va développer notamment Hegel, par exemple, on a l'idée que le travail peut être une activité proprement humaine, c'est-à-dire qu'on va, du coup, briser cette opposition entre l'humanité et le travail, contraint, qui était le cas précédemment. Pour Hegel, le travail, c'est finalement la réalisation de l'humanité et donc la réalisation de la liberté de l'humanité. Puisque par le travail, et c'est ça qui va frapper les modernes, l'homme transforme la nature. Donc par la transformation de la nature, le travail permet d'humaniser la nature. Et donc à travers l'œuvre que l'homme produit grâce au travail, il va pouvoir se reconnaître comme un être non naturel. Je ne rentre pas justement dans le détail conceptuel de Hegel, mais il y a cette idée que finalement le travail, ça n'est pas une activité contrainte, mais une production œuvrante, une production créatrice. Alors, bon, c'est le sens, chez Hannah Arendt, de la distinction entre le travail et l'œuvre. Finalement, dans l'Antiquité, on s'intéresse plus au corps qui souffre pendant qu'il travaille, alors qu'à l'époque moderne, on s'intéresse au résultat de l'activité humaine. Et ce résultat, c'est effectivement une œuvre qui permet de bâtir le monde artificiel dans lequel nous vivons, et qui n'existerait pas sans le travail, et qu'il faut entretenir, et c'est aussi un travail. Et donc, par le travail, l'homme construit un monde, un habitat, une maison, transforme la nature, et en quelque sorte, va dire Hegel, il se réalise dans cette activité.
Le toboggan qui dessert les niveaux chez Link Pinette est bien plus qu'un gadget. L'accessoire, légèrement surprenant dans une entreprise, est vraiment utilisé par les collaborateurs. La preuve, Kevin vient de descendre les 3 étages en glissant, parce que c'est amusant, mais surtout pour gagner du temps.
Ce grand toboggan dans le hall reflète vraiment l'esprit que les PDG veulent mettre en place au sein de leur entreprise.
Et à votre avis, est-ce que ça marche ?
Oui. Je me lève tous les matins, je suis content de venir.
Joindre l'utile à l'agréable donc, car le toboggan, le baby-foot ou les hamacs, bref, les installations présentes à chaque étage, encouragent la détente, certes, mais dans le travail. L'idée, c'est que les espaces de décompression aident à la productivité et à la concentration des 400 collaborateurs qui veillent en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les données informatiques de leurs clients, soit un bon quart des entreprises du CAC 40.
Il n'y a pas juste le jeu, il n'y a pas juste le toboggan. On part du principe que les collaborateurs s'investissent beaucoup dans l'entreprise. Et parce que nos clients sont soumis à des stress, parce que nos clients ont des crises, bien il faut pouvoir avoir ces soupapes de débordement qui nous permettent justement de relaxer un petit peu.
Et il semblerait que ce management encore assez inhabituel en France porte ses fruits. Link by Net devrait réaliser autour de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012 et pense ouvrir des sites en Asie et au Brésil, histoire de ne pas être trop dépaysé.
Il est important d'aller
aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est dans le fœtus un beau matin que pousse ou pas le poil dans la main, rien que pour dire aux courageux qu'il s'en est fallu de peu. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est à l'école qu'il faut choisir, en mettre un coup et bien marner, pour pouvoir espérer devenir un vrai de vrai ramier. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Car pour buller, faut la jouer fine, pas se contenter, c'est primordial d'avoir le premier prix de cantine ou de visite médicale.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le deuxième temps aujourd'hui de notre série d'émissions spéciales Bac Philo. Aujourd'hui, c'est le professeur Marc Leny du lycée Kléber de Strasbourg qui explique, commente, dissèque et analyse pour vous le sujet suivant. Faut-il aimer son travail ?
À faire semblant de bosser. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Les ceux qui fabriquent les canons ont leur statut dans les blédards. Personne n'a sculpté le birliton, l'inventeur du plumard. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Un jour y en a, et pas le lendemain. Un coup tu ris, un coup tu pleures, car le travail ça va, ça vient, comme les burnes d'un faucheur. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer.
Y'a des godasses qui prennent l'eau.
Si on se donne les moyens, Marc Leny, de considérer le travail comme étant une chose aimable, vous avez cité Hegel, le rapport entre le travailleur, disons l'homme et son œuvre, et le résultat de son travail peut être positif, même doit l'être, c'est le signe de l'humanité qui se ressaisit dans ce qu'elle produit, dans ce qu'elle peut produire de meilleur. Quelle place faites-vous dans ce cas? Non pas simplement la relation entre l'homme et son travail, plutôt et l'œuvre, le produit de son travail, mais à celle d'une forme de volonté ou de choix, choisir d'aimer son travail. Vous avez dit, le sujet c'est faut-il aimer son travail? Une chose est de reconnaître qu'on peut avoir une conception positive du travail, une autre aussi est de pouvoir, de se donner les moyens d'accepter de reconnaître cette dimension positive du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous n'avons pas toujours les conditions nécessaires pour reconnaître la vertu positive du travail que nous faisons, même quand celle-ci est objective.
Alors, dans le plan que je propose, j'y viens dans le pas d'après, dans la troisième.
Parce que c'est une question qui se pose même dès maintenant lorsque vous dites cela. Hein.
Et c'est la question qui est la plus intéressante. Évidemment, c'est dans le sujet, il est nécessaire bien sûr de se pencher, de faire porter l'accent à un moment donné ou un autre du travail scolaire du candidat qui fait sa dissertation, de faire porter l'accent sur chacun des éléments du sujet. Et donc dans le sujet il y a le verbe aimer et il y a le son travail, donc il y a des choses encore à réfléchir du point de vue de l'analyse du sujet que je réserve dans la troisième partie. Pour finir avec la seconde partie, on a donc compris que pour les modernes, le terme de travail est pensé d'abord comme une activité humaine. Et donc, il y a ce lien qui est noué, notamment, on a cité Hegel, mais on pourra en citer d'autres, qui est noué entre le travail et l'humanité. Travailler, du coup, c'est participer à l'effort collectif de l'humanisation de la nature et de la construction de la société, du dynamisme culturel, etc. Mais c'est aussi, pour les modernes, non seulement une activité humaine, on a dit, mais aussi une activité qui humanise. Et là, on a une conception qui devient progressivement morale du travail. C'est-à-dire que ce qui intéresse cette conception morale, humaniste aussi on peut dire, du travail, c'est le fait que l'activité du travail elle-même, indépendamment de l'objet qu'elle produit, permet au travailleur d'acquérir un certain nombre de vertus.
À partir de là, une fois qu'on a cette conception, une fois qu'on a mis le doigt, je dirais, dans cette conception-là, le travail aussi pénible, laborieux, aussi stérile qu'il puisse être au niveau de son résultat, devient intéressant pour le travailleur puisqu'il lui permet de se former lui-même. Alors ça, c'est vraiment la conception moderne du travail, une activité humaine, une activité qui humanise. Ces deux aspects-là font qu'on va trouver à l'époque moderne tout un ensemble de conceptions du travail qui considèrent le travail comme une valeur. Qui considèrent le travail comme une valeur et qui vont faire du coup de la notion de travail une notion qui concerne toutes les activités humaines. En fait, à l'époque, alors qu'à l'époque ancienne, le travail était une conception, relevait d'une conception très restrictive, les activités contraintes par les nécessités biologiques, à l'époque moderne, le travail est une notion qui concerne la totalité des activités. Si vous demandez à un économiste qu'est-ce que c'est que le travail, il vous répondra, c'est un emploi qui permet à quelqu'un d'avoir un salaire, de remplir une activité, de rendre un service, de produire un bien. C'est quelque chose de très général. Un poète travaille, un musicien, un chef d'orchestre travaille. Dire d'un artiste qu'il travaille, pour un grec, c'était absolument impensable. Donc on a en fait une conception...
C'est encore un peu le cas aujourd'hui, hein, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de réticence à reconnaître que certains travaux, justement, sont des travaux, que chanter est un travail, que faire de la poésie est un travail.
Une cantatrice rémunérée par l'opéra dans lequel elle travaille, on dit bien qu'elle travaille, c'est son emploi, c'est sa fonction.
Alors, parce qu'elle est payée, mais il y a aussi le travail, pour le coup, proprement artistique, qui n'est pas mis au même niveau que beaucoup d'autres formes de travail aujourd'hui.
Et vous voyez bien, on utilise malgré nous le terme de travail. Vous avez parlé de travail artistique. Mmh. Voilà. Donc il y a un travail. Le terme de travail se retrouve, il a pris une ampleur presque universelle. Alors évidemment, ça pose problème, pour revenir à ce que vous disiez, ça pose problème parce qu'il semble quand même que tout travail n'est pas aimable. Ainsi, on parle de cette conception humaniste que je viens brièvement de décrire. Si le travail, quel que soit son résultat, quelles que soient ses conditions, est une activité qui permet au travailleur de se former, et donc d'acquérir des vertus, etc. Alors tout travail est aimable, donc du coup il n'y a pas non plus à devoir l'aimer, sauf que par définition le travail serait aimable puisque ça serait la réalisation de l'humanité. Et ça pose problème parce que, en tous les cas, c'est ma conviction, et il faut toujours, à mon avis, que l'élève, dans son travail de dissertation...
Là, il n'est pas payé pour le coup.
Par une bonne note peut-être, mais il faut qu'il termine par sa conviction. Et je terminerai du coup moi-même par ma propre conviction. Il me semble que tout travail n'est pas aimable et qu'il faut donc bien trouver quelque chose comme un critère. Enfin, il faut commencer à penser la question du travail de manière un peu plus fine. Et c'est ce que je proposerai en troisième partie.
Mais alors dans la deuxième partie, vous avez cité Hegel. J'imagine sans doute les principes de la philosophie du droit. Est-ce qu'il y aurait un autre auteur que vous pourriez convoquer dans cette deuxième partie ? Ou est-ce que vous feriez tout le développement uniquement à partir du texte de Hegel ? Qui est très difficile d'ailleurs, en plus il faut le dire, c'est un texte qui est difficile à lire et difficile à comprendre. Donc est-ce qu'il est mobilisable par des étudiants en terminale ?
Alors parce que la phrase de Hegel est conceptuellement difficile, dialectique, et pour ces raisons-là, je conseillerais plutôt aux candidats de s'appuyer simplement sur une analyse conceptuelle du travail. C'est-à-dire une activité productrice, créatrice, etc.
Et donc de ne faire appel à aucun auteur.
Et alors, on peut faire appel à d'autres auteurs si on les connaît. Par exemple, on peut faire appel à un des premiers qui a inauguré cette tradition, qui est Locke, qui va faire du travail le fondement de la propriété. Alors voilà, c'est un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, mais faire du travail le fondement de la propriété... de la propriété légitime, c'est bien considérer le travail de manière pleinement positive. Donc on a là déjà quelque chose qui nous lance sur la voie. Alors pourquoi le travail est le fondement de la propriété ? Parce que justement, en travaillant, l'homme valorise ce qu'il transforme, et ce qu'il transforme n'existerait pas sans son intervention. Donc on retombe sur l'analyse conceptuelle du début.
Et alors finalement, dernière question avant de passer à la troisième partie, à la question « faut-il aimer son travail ?» on n'a pas encore vraiment répondu, c'est surtout dans la troisième partie qu'on va y répondre.
Alors, on va y répondre dans la troisième partie, oui.
Donc, vous maintenez ici la question autour de la réflexion autour de l'obligation et même de l'amour d'un objet. Vous maintenez tout ça pour la troisième partie.
En fait, je pense que la question est mal posée.
La mienne ou celle du sujet ?
Non, pas la vôtre. non, je ne me permettrai pas. Non, la question « faut-il aimer son travail ?» je pense qu'elle est ambiguë. Et c'est ça que j'essaie de montrer dans le plan. Finalement, dans les deux premières parties, alors il ne faut pas hésiter, il ne faut pas qu'un candidat hésite à critiquer la manière dont un sujet peut être formulé. D'abord parce que il y a des sujets qui sont effectivement mal formulés et qui sont mal choisis, mais il faut montrer son indépendance et son esprit critique, et il ne faut pas hésiter. Faut-il aimer son travail ? travail, finalement, il y a derrière cette idée la proposition suivante. Il faudrait, de manière cynique, que le travailleur aime la tâche pénible à laquelle ceux qui ont le pouvoir de donner du travail le contraint. Et donc, il y a là l'idée d'une moralisation, d'une activité qui, en soi, n'est pas aimable. S'il faut aimer son travail, c'est que le travail n'est pas aimable en soi. Jusqu'à maintenant, nos deux parties opposent de manière un peu statique le travail qui, en soi, n'est pas aimable, et puis un travail pleinement positif qui, en soi, est aimable. Si vous dites, à quelqu'un qui a une tâche dévalorisante, mal payée, non reconnue socialement, qu'il participe au dynamisme de la culture, comme le soutient Hegel, vous verrez qu'il fera une drôle de tête. Et d'ailleurs, c'est le propos de Arendt quand elle parle du travail et qu'elle revient, qu'elle ose revenir à la conception antique du travail. Elle dit, à l'époque moderne, on a des conceptions positives du travail qui humanisent, qui moralisent. Mais quand vous demandez à un ouvrier pourquoi il travaille, il vous répond, et Arendt souligne entre parenthèses, et ça fait du bien d'entendre ça, il vous répond pour gagner sa vie, parce qu'il est contraint. Et que gagner un salaire, c'est simplement pouvoir, avec cet argent, acheter le travail des autres et pouvoir satisfaire les besoins biologiques auxquels il est contraint. Donc, on a cette opposition statique et il faut en sortir. Donc, c'est ça le but de la troisième partie.
Quel salaire ?
Bonjour.
On ne voit plus ?
Je travaille.
Le travail !
Oh, cesse de faire l'imbécile. Tu me caches le soleil.
Oh, vous réunis en paix, ma belle. Ah, le déjeuner?
Non.
Bon, je te fais du café.
Non, merci.
Pas du thé. Du chocolat.
Ah.
Et toi, qu'est-ce que tu prends?
La même chose que mon chat adoré.
Bon, allez, vous me cassez les pieds, je vous fais du café.
Tu es tout pâle, Charles. Pourquoi est-ce que tu travailles tellement? Tu vas te crever?
Bon. Eh ben, je vais travailler.
Tu ne déjeunes pas?
Si, si, mais... Vous direz à Paul de me l'amener dans ma chambre.
Reste, voyons.
Vous lui direz, hein?
En quoi consiste la dépossession du travail? D'abord dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son être, que dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie, qu'il ne s'y sent pas satisfait, mais malheureux, qu'il n'y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. C'est pourquoi l'ouvrier n'a le sentiment d'être à soi qu'en dehors du travail. Dans le travail, il se sent extérieur à lui-même. Il est lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il n'est pas lui. Son travail n'est pas volontaire, mais contraint. Travail forcé. Il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, on fuit le travail comme la peste.
Marc Leni, on a là une transition toute trouvée vers la troisième partie, en la personne sous la plume de Marx, ici donc un extrait des manuscrits de 1844. Il faut quand même dire tout de suite qu'ici le travail dont parle Marx, c'est le travail de l'ouvrier. D'ailleurs, il le précise lui-même. Donc peut-être que si on fait référence à Marx, faut-il encore préciser quelle est la conception du travail et quelle est la nature même du travail dont il est question ici.
Oui, alors c'est l'intérêt de Marx que de rejeter dos à dos les deux conceptions précédentes, donc de faire un pas de plus dans la réflexion en disant que ces deux conceptions sont des conceptions abstraites, c'est-à-dire qu'elles sont incomplètes et qu'elles échouent à penser la question du travail, ce qui fait que pour nous, elles ne nous permettent pas de répondre correctement, de manière satisfaisante, à la question « faut-il aimer son travail ?». Marx dit une seule chose, si je résume sa pensée en une minute, c'est la chose suivante, le travail est une activité sociale. Si c'est une activité sociale, ça signifie qu'il faut tenir compte de la division du travail. La division du travail, on sait tout ce que c'est la spécialisation des tâches. Mais cette définition de la division du travail est elle-même encore abstraite. pour qu'elle ne soit pas abstraite, il faut la penser de manière historique. Autrement dit, quand on parle, il ne faut plus parler du travail avec un T majuscule. Cette abstraction philosophique est l'objet d'une critique de Marx. Il faut parler, quand on parle du travail, il faut savoir de quel travail précis on parle. Et donc, il faut tenir compte de la division du travail, mais de la division au sens historique, c'est-à-dire de la division telle qu'elle existe à un moment donné de l'histoire d'une société. La division du travail en soi, ce serait encore une abstraction philosophique qui nous empêcherait de répondre correctement. Il faut donc tenir compte de la division du travail historique et concrète d'une société à un moment donné de son histoire. Très bien. Alors, on le sait, Marx, avec Engels, a découvert le prolétariat du machinisme industriel qui se développe au XIXe siècle, et donc il propose le concept de travail aliéné pour caractériser le travail des ouvriers. Alors, ça relève d'une double aliénation. Je ne rentre pas dans le détail, mais le candidat pourrait développer ce concept d'aliénation du travail, qui, eh bien évidemment, n'est pas aimable. Un travail aliéné n'est pas aimable. Le travail est aliéné parce que l'homme, l'ouvrier, l'individu, avec ses facultés, sa sensibilité, sa pensée, ne se reconnaît pas dans la tâche parcellaire, mécanique qu'il accomplit, les temps modernes, Charlie Chaplin, etc. Mais le travail est aussi économiquement aliéné parce que c'est la notion de sur-travail chez Marx. Une partie de la richesse que le travailleur produit est récupérée par celui qui l'embauche. Et donc, il est dépossédé de la richesse qu'il a produite lui-même. C'est ce qu'il appelle le sur-travail. Donc, double aliénation du travail chez Marx. Mais surtout, ce qui nous intéresse au-delà de ça, même si le travail aliéné continue à exister dans notre société, ce qui nous intéresse, c'est cette idée qu'il ne faut pas parler du travail de manière abstraite avec un T majuscule. Il faut, quand on se pose la question de savoir s'il faut aimer son travail, s'intéresser à un travail particulier, c'est-à-dire penser à un travail précis.
Donc, et faut-il penser son travail ? Là, on en revient à l'importance ici du terme. Donc, du coup, il ne s'agit pas du travail avec un T majuscule, mais de son travail.
Exactement. Alors, c'est comme ça que je vais. Tout à fait, voilà, c'est exactement comme ça que j'avais construit le devoir, à savoir qu'en troisième partie, une fois qu'on est passé par Marx, on peut effectivement dire que c'est le son dans le sujet, le possessif, qui est intéressant. C'est de quel travail parlons-nous ? Et du coup, on arrive à l'idée, qu'est-ce qu'un travail aimable ? C'est-à-dire, que faut-il à une activité professionnelle à laquelle on se rend tous les jours pour qu'il soit aimable, sachant que tous les travaux, enfin que tout emploi n'est pas forcément aimable. Il y a une médecine du travail, parce que justement, le travail est aussi le lieu d'une déformation des corps, d'une déformation aussi professionnelle des esprits. Le burn-out, ça existe. Le stress au travail. Enfin, il y a un ensemble de pathologies qui sont liées au travail et qui montrent bien que Marx a raison contre Hegel, à savoir que le travail n'est pas le lieu de l'accomplissement de l'humanité et de la culture. Mais il y a des emplois, il y a des activités professionnelles qui peuvent être épanouissantes et donc qui peuvent être aimables. Alors, lesquelles ? Qu'est-ce qu'un travail aimable ? Donc, on arriverait.
Voilà. Et donc là, on ne peut plus repousser le moment de l'analyse du terme d'amour. Faut-il aimer son travail ? Qu'est-ce que ça veut dire, aimer un travail ? Donc, ici, il faut analyser non seulement le verbe aimer, mais l'associer au terme même de travail. Peut-on avoir une relation d'amour qui ne soit pas une relation amoureuse ? Mais donc, encore faut-il qualifier les différentes façons d'aimer un objet avec un travail quand celui-ci, en plus, est le lieu d'une souffrance ?
Alors, effectivement, là, il y a un choix d'un strict point de vue méthodologique. Le concept, la notion d'amour peut être analysée plus en amont dans le devoir, ou bien, c'est ce que j'ai choisi de faire, de réserver cette analyse pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'un travail aimable suppose évidemment de s'interroger donc sur ce que c'est que l'amour. On ne va pas faire une disserte entière sur cette notion, donc on va retenir simplement quelque chose d'essentiel. Je voulais citer Descartes, qui écrit dans Les Passions de l'âme que l'amour est le plus grand de tous les biens qui appartiennent à l'homme. On peut aussi penser à Spinoza, c'est peut-être plus connu, qui définit l'amour comme une joie qu'accompagne l'idée de sa cause. L'idée générale, c'est que l'amour rend joyeux. C'est-à-dire que aimer quelque chose, une activité, ou aimer quelqu'un, c'est une source de joie. Et c'est comme le dit Descartes, c'est pas une source de joie quelconque, c'est la plus grande source de joie de l'existence. Donc aimer son travail, ça serait aimer une activité qui serait cause de joie pour nous. Ce serait aimer une activité qui deviendrait pour nous un univers dans lequel on aimerait, que l'on aimerait fréquenter régulièrement, dont on connaît les détails. Ça serait une activité qui rentrerait aussi en harmonie avec nos, nos facultés, notre sensibilité, nos différentes possibilités. Donc on aurait là, à partir d'une définition positive de l'amour, l'idée d'un travail aimable, un travail qui soit source de reconnaissance sociale aussi. On peut insister sur la question de la reconnaissance sociale. Voilà quelques éléments d'analyse.
Il vous reste donc à peu près 30 secondes pour fournir une conclusion à cette dissertation. Vous devez rendre la copie. Sur quelle, du coup, quelle sorte de conclusion est-ce que vous proposeriez ?
Alors, j'insisterai sur le résultat de la réflexion, à savoir ce que nous avons pu dire dans la troisième partie, à savoir que ça n'a pas de sens de dire qu'il faut aimer son travail si le terme de travail n'a pas été défini, si on n'a pas extrait de cette conception abstraite que nous avons vue au début. Donc, il ne faut pas aimer son travail, mais il faut avoir la possibilité de choisir un travail aimable. Il faut avoir la liberté, la chance peut-être, d'avoir une activité professionnelle aimable, c'est-à-dire que c'est à chacun, du coup, de négocier entre la contrainte que constitue le travail, puisque c'est une contrainte, et la possibilité que cette contrainte rentre quand même en harmonie avec nos aspirations.
Oui, ne rien faire et penser en ne faisant rien, c'est éreintant. C'est vrai, le travail c'est plus facile. On suit une pente. Il y a une paresse du travail. Le travail est une fuite en avant, une espèce de